Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des maternelles. Alors, j'ai une bonne nouvelle, dorénavant, nous allons mettre en ligne tous les jours un épisode en fin de matinée pour celles et ceux qui auraient raté la séquence Les yeux dans les yeux en direct le matin sur France 2. Vous pourrez donc entendre ou réentendre ici le témoignage recueilli par Agathe Le Caron dans l'émission. Et puis, bien sûr, on va continuer de produire régulièrement des épisodes comme c'était le cas jusque-là, des inédits sur des sujets divers à propos de, au choix, la grossesse, l'accouchement, la parentalité, l'éducation, etc. Etc. Bref, le podcast des maternelles est enrichi et je vais vous dire, on est hyper content de ça. Mais donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce témoignage très fort, celui de Déborah, la toute première femme en France à être devenue maman après avoir eu une greffe de l'utérus. Elle s'appelle donc Déborah, c'est parti.
Bonjour Déborah.
Bonjour Agathe.
Alors Déborah, la nature avait prévu que vous n'ayez pas d'enfant.
Oui.
Voilà. Hein. Vous êtes en effet la première femme en France à avoir bénéficié d'une greffe d'utérus qui vous a permis de donner naissance à votre petite fille qui est adorable, qui est dans les coulisses avec les nounous des maternelles. Elle s'appelle Micha. Elle est née le 12 février dernier. Et double cadeau, cet utérus qui vous manquait, il vous a été donné par votre maman.
Oui.
C'est incroyable. Merci de venir partager pour cette première sur France 2 votre aventure hors du commun. Déjà, à quel âge est-ce que vous avez découvert que vous n'aviez pas d'utérus ?
Alors, j'ai découvert ce souci à l'âge de 17 ans par l'absence de menstruation. Ma maman était réglée tardivement et moi, j'étais athlète de haut niveau en natation synchronisée. Donc, du coup, on me disait de ne pas m'inquiéter. Mais j'avais comme un pressentiment, un ressenti. Et donc, du coup, j'ai consulté et on a approfondi. Et c'est là qu'on a posé des mots sur mes mots. Voilà.
À quel âge ?
17 ans.
17 ans.
Et c'est là qu'on m'a dit, ça s'appelle un syndrome de Rokitansky ou MRKH, et c'est l'absence congénitale d'utérus. Mais j'ai la chance, en fait, d'avoir au moins mes ovaires qui fonctionnent et pas d'autres malformations, parce qu'il peut y avoir d'autres malformations.
Alors, est-ce que vous avez tout de suite compris les conséquences que ça allait avoir sur votre vie de femme ? Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle ?
Non, au départ, ça a été, j'ai été déboussolée, en fait. Donc, il a fallu consulter en fait, un professeur à Marseille, à la Timone, qui, là, m'a expliqué, m'a dessiné exactement ce qu'il me manquait et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de solution pour moi à ce moment-là et que ça serait par la suite soit de l'adoption ou la GPA. Mais la GPA, la gestation pour autrui en France, étant interdite, c'était le drame.
Oui, c'est ça, c'est une annonce atroce. Ouais. Pour une jeune fille de 17 ans, comment est-ce que vous avez vécu après votre vie de jeune femme, et de femme d'ailleurs, avec ce couperet et cette nouvelle ?
Mais à la suite en fait de cette annonce, j'ai fait comme un déni, c'est-à-dire que je ne voulais absolument plus en parler. J'avais mon premier amour à ce moment-là, donc qui a vécu la chose avec moi et mes parents. Mais après, je ne voulais plus en parler. Je suis remontée, me relancer sur mes entraînements dans le sport et j'ai fait comme un déni. Mais finalement, cette nouvelle, elle était en moi et ça s'est un peu propagé comme une grande graine. Et j'ai perdu toute confiance en moi, dans la sportive que j'étais. Et ça s'est terminé par des troubles du comportement alimentaire. En fait, j'ai été vraiment... je ne me sentais pas à part entière femme. J'étais vraiment... C'est vrai que 17 ans, c'est la construction d'identité. On devient femme. Donc, j'étais vraiment... Je ne savais plus, en termes d'identité, en tant que femme, ce que j'étais, en fait.
Alors, vous disiez vous avez vécu ça avec votre premier amour, mais c'est vers 21 ans, 22 ans que vous avez rencontré Pierre-Antoine, qui deviendra votre mari donc quelques années plus tard. Et votre visage s'illumine, on dit Pierre-Antoine, ça marche. Alors évidemment, quand on rencontre l'homme de sa vie, il y a ça qu'il faut lui annoncer. Comment est-ce que vous avez géré ça ?
Très vite, j'ai eu des sentiments pour lui. Donc, au bout d'un mois, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai fait ça un peu à la manière d'arracher un sparadrap. Je me suis lancée d'un coup. Et il était surpris. Et en même temps, il ne s'était pas encore projeté en tant que père ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, il était focus sur nous, sur notre relation, sur moi. Et donc, du coup, c'était ça qui importait le plus pour lui. Donc, ça a été vraiment... simple. Et voilà, je suis tombée sur la bonne personne. Voilà.
Alors, fin 2014, pour la première fois au monde, il y a un enfant qui est né à la suite d'une greffe d'utérus en Suède. Et en France, vous apprenez que l'hôpital Foch débute un essai clinique. Donc, vous avez rencontré l'équipe. Et là, forcément, l'espoir.
Oui. Ouais. Là, quand j'ai rencontré le professeur Ayoubi, c'est... Voilà, déjà, quand j'ai entendu ce nom, j'ai regardé son CV, j'ai cherché. Et là, j'ai vu un CV énorme, dieu de la gynécologie, de la procréation. Et quand je suis rentrée à la première rencontre dans son bureau, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, c'est là que ça se fera.
Ouais, vous étiez vraiment en toute confiance.
Exactement.
Alors, le protocole de Foch, il prévoyait que la greffe d'utérus, il soit parenté. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit l'utérus de votre maman ou de votre sœur, ou en tout cas quelqu'un de la famille. Est-ce que vous en aviez déjà parlé avec votre maman ?
Ben, quand on m'a annoncé mon syndrome à 17 ans, ma mère m'a dit à ce moment-là, écoute, on ne sait jamais ce que la science nous réserve dans les années futures. Je ferai tout, en tout cas, pour garder mon utérus en bon état. Comme ça, si jamais un jour la science le permet, ben, avec plaisir, je te le donnerai.
Elle ne savait pas ce qu'elle disait. J'imagine qu'elle n'imaginait pas une seconde que ça pourrait être vrai et qu'elle pourrait un jour vous le donner. Alors, en mars 2019, il y a eu le fameux transfert d'utérus, peux appeler ça comme ça.
C'est ça.
Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes toutes les deux ce jour-là ? C'est un moment, j'imagine, extrêmement fort. Merci, quoi.
Bah, c'est ça, on a toujours eu une relation un peu conflictuelle, mais dans cette aventure, ça nous a vraiment permis de nous redécouvrir, resserrer les liens. Et même chose avec l'équipe de Foch, le professeur a une super équipe. On a collaboré, en fait, tous ensemble. Et au niveau aussi psychologique, c'est vrai que c'était important. Et il y avait un lien fort de confiance qui s'est installé. Du coup, on était vraiment sereines. On est parties au bloc, sereines toutes les deux.
Et à quel moment est-ce que vous avez appris que ça avait marché et que donc l'utérus, il était prêt à recevoir un embryon ?
Bah, le lendemain.
Ah oui, c'est très rapide.
Ah oui, bah déjà, quand il déclampe, bah voilà, l'utérus reprend la couleur, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis après, on suit sur les échographies tous les jours. Et puis au bout de 3 jours, on voyait que l'endomètre s'épaississait. Donc c'était annonciateur que le greffon s'adaptait à mon corps, à mon rythme hormonal, et que dans quelques jours, dans quelques semaines, sûrement, j'aurai mes règles. Et ça s'est confirmé 15 jours après, à 34.
Vous avez eu vos règles pour la première fois de votre vie. Vous avez vu, c'est sympa, hein.
Bah, je crois que j'ai été la seule femme à 34 ans, j'ai sauté de joie parce que là, c'était vraiment annonciateur que c'était hyper positif et que ça fonctionnait super bien.
C'est incroyable. Mmh. C'est 1 an et 4 mois après la greffe qu'on a pu vous implanter votre embryon. Mmh. Moi, je veux que vous me racontiez le moment où vous faites le test et tout, vous apprenez que ça a marché. Ça a dû être extraordinaire parce que quand on entend ce que vous dites, à quel point votre vie de jeune femme, vous n'arriviez pas à trouver votre place finalement. Mmh. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce test positif ?
C'était incroyable. Normalement, on n'avait pas le droit de faire de test urinaire parce que c'est souvent des faux positifs, négatifs. Donc, il fallait attendre la prise de sang.
Mais bon, vous avez grugé.
J'ai grugé. J'ai acheté un spécial précoce et je voulais surtout le faire avec mon mari parce qu'il ne serait pas présent pour la prise de sang. Donc, du coup, je voulais qu'on vive ça quand même à deux. Et quand ça a été positif, c'était... On s'est effondré de larmes, de joie, c'était magique. Et la prise de sang a confirmé avec un bon taux de bêta-ACG. Donc du coup, c'était annonciateur d'un petit bonheur miracle.
Elle s'est bien déroulée, la grossesse. C'était ce qu'on appelle une grossesse précieuse, entre guillemets. Vous étiez extrêmement suivie, j'imagine.
Alors oui, je devais être suivie vraiment normalement et monter à Paris, puisque je suis de Cannes régulièrement. Mais avec la Covid, il a fallu changer un peu les plans pour éviter que j'attrape la Covid. Et donc du coup, on faisait beaucoup de rendez-vous téléphoniques, visio, et le professeur est descendu à Cannes, à la maison, pour faire la première échographie. Et c'est là qu'on a entendu tous les trois, avec Pierre-Antoine et le professeur, les battements de cœur de Micha. Donc là, c'était hyper fort. Là, les larmes ont coulé, on était vraiment soudés, et c'était le miracle qu'on entendait enfin.
Vous avez une petite complication à 30 semaines, je crois, mais finalement... C'est le cas de beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
J'ai commencé à avoir des premiers signes de prééclampsie. Donc du coup, ça s'est un peu accéléré. On a réussi à tenir jusqu'à 32 semaines et 4 jours. Et là, on a programmé la césarienne. Ça aurait dû de toute manière être une césarienne parce qu'il y a trop de risques par voie basse par rapport au greffon.
Ah, vous le saviez depuis le début ?
Oui, ça, je le savais depuis le début. Donc voilà, on a maintenu au moins jusqu'à 32 semaines et ces 4 précieux jours.
Bon, et Déborah, la première rencontre. Non mais... C'est extraordinaire.
Ouais.
Avec en plus cette histoire de vous et votre maman, quoi. C'est une histoire familiale, c'est incroyable.
Ouais.
Comment ça s'est passé, le premier regard avec Monsieur ?
Ça s'est fait en salle de réveil, parce qu'au départ, on a dû me l'apprendre pour aller dégager ses voies aériennes, etc. Et là, c'était le miracle. C'était plonger mes yeux, les uns. Enfin, voilà, on se noyait l'un dans l'autre. Et après, je me suis tournée, il y avait le professeur et toute l'équipe qui était là. Et c'était incroyable de partager ça avec eux, eux qui sont battus, qui ont fait un travail acharné pour me permettre de vivre ce miracle. Je ne pensais pas, en fait, un jour, avoir le droit de vivre ça. Et ça a été... Il n'y a pas de mots, en fait, tellement que c'est magique. Et hors du temps, on se croirait vraiment hors du temps, tout s'arrête. C'est magique d'avoir vécu ça avec cette équipe.
Voilà, que d'ailleurs le professeur Ayoubi, qu'on va retrouver dans quelques minutes, parce qu'on aura évidemment plein de questions à lui poser. Vous avez 36 ans aujourd'hui, pardon de donner votre âge, mais
non, y a pas de
vu votre histoire, bon. Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres enfants? Et surtout, est-ce que c'est possible?
Alors oui, Micha est notre bébé bonheur et elle nous donne envie d'en avoir un autre et on a la possibilité dans le protocole d'avoir un deuxième enfant. Il faut qu'on attende un an post-césarienne, quand n'importe quelle césarienne, voilà, que l'utérus cicatrise. Et donc à partir de février 2022, on pourra prétendre à un nouveau transfert. Et si ma santé et les examens sont bons, ça sera OK. Et après, on devra retirer par contre le greffon au bout, parce qu'on ne peut le garder que 5 ans à cause des traitements immunosuppresseurs. Les effets secondaires sur le long terme peuvent être dangereux. Donc du coup, le greffon, on ne le garde que 5 ans. Donc voilà, il faut que cette grossesse se passe dans les 5 ans où j'ai le greffon.
Bon, et Brigitte, comment est-ce qu'elle va, votre maman ?
Ma mère se porte très, très bien. Elle a rencontré Micha pour la première fois, en juin dernier. Et voilà, elle était un peu rouillée au départ quand je lui ai donné dans les bras. Et puis après, c'est très vite revenu. Et il y a une tendresse qui s'est installée. Elles se sont bien entendues.
Est-ce que ça a changé entre vous deux, entre votre maman et vous ?
Je ne sais pas. Je pense que de toute manière, d'une mère à... Une fille et sa mère, c'est toujours sûrement un peu compliqué. Dès l'instant qu'on devient maman, je pense qu'on a un autre regard, un peu plus doux, et encore plus là avec la preuve d'amour qu'elle m'a donnée en me donnant ce greffon, cet utérus, c'est encore plus fort, en fait, dans cette aventure. Donc, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de recul. Enfin, voilà, du coup, on est sur du positif et on profite.
Voilà pour cet incroyable témoignage, celui de Déborah, que l'on remercie encore beaucoup d'être venue nous voir ce lundi matin, la première mère greffée de l'utérus. Alors, si cet épisode vous a plu, vous savez quoi ? Abonnez-vous au podcast des maternelles sur n'importe quelle plateforme, par exemple sur la plateforme de Radio France, pour ne manquer aucun épisode. Tous les jours, vous allez pouvoir écouter comme ça l'un des témoignages de l'émission. C'est parfait en voiture, dans les transports, en faisant un footing, pourquoi pas, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses, une fois que vous reprenez le travail, à regretter de ne pas pouvoir suivre tous les matins l'émission, et bien hop, c'est parfait, en version podcast, même si bien sûr, le replay sur France.tv existe, et puis vous avez aussi le droit d'écouter ce podcast allongé sur un canapé, évidemment, c'est comme vous voulez. Si vous avez des envies, des sujets qui vous intéressent, des questions que vous aimeriez voir abordées comme ça en podcast, c'est pas mal le podcast, ça laisse du temps. N'hésitez surtout pas, vous m'écrivez sur Instagram. On est preneurs de bonnes idées. On se retrouve demain à partir de 9h25 sur France 2. Allez, ciao tout le monde, à demain, j'espère.